Vous écoutez
RMC.
Bonsoir à tous, la nuit de l'after continue en direct sur RMC jusqu'à 4h du matin. On est également en direct sur la chaîne YouTube de l'after, bien sûr. L'after première radio de France le soir, Daniel Riolo est de retour. Daniel, bonsoir.
Et bonsoir les amis.
Et Maxime Chalot est avec nous depuis New York. Salut Maxime.
Salut à tous.
L'événement ce soir dans l'after, c'est bien sûr la suite des huitièmes de finale. On va analyser la victoire de l'Espagne dans quelques instants face au Portugal 1-0. C'est en plus la moitié de tableau de la France. Adversaire potentiel de l'Espagne éventuellement en demi-finale. Plus le match de la nuit tout à l'heure entre les Américains et les Belges. Match qui évidemment fait débat avec l'affaire Trump. On y reviendra. Est-ce que cette décision, cette intervention est une des pires interventions de l'histoire de la Coupe du Monde, un des pires scandales de l'histoire de la Coupe du Monde? On en débattra tout à l'heure. On écoutera Donald Trump qui est sans filtre. Et puis l'actualité de l'équipe de France qui joue jeudi face au Maroc. Le 32-16 est ouvert. On a également notre numéro WhatsApp disponible pour vous, 0612 424 424. Les gars, je regarde Cristiano Ronaldo qui
100 balles, j'ai mis 100 balles sur le fait qu'il allait chialer.
Ah bah écoute, je crois que t'as gagné.
Non.
Ça chiale.
Il m'a semblé voir que.
Si, ça chiale forcément. Ça chiale forcément.
Les yeux bien rouges.
C'est sûr que dans 4 ans, ça va être dur d'être encore là quand même.
Ça va forcément chouiner un moment ou un autre.
Bon, là, on le voit pas. Là, on a des images sur l'équipe d'Espagne qui, évidemment, fête sa qualification. Cristiano Ronaldo ne sera donc jamais champion du monde. Et on va en parler avec Gary De Jesus qui suit le foot portugais pour nous. Salut Gary.
Salut messieurs.
Salut Gary.
Et avec salut Edgar Grolot qui lui suit le football espagnol. Edgar, bonsoir.
Salut Gilbert, salut tout le monde.
Regarde Daniel.
Voilà, j'ai gagné mon pari.
Gary, est-ce qu'il a pleuré?
Que vous êtes dur. Que vous êtes dur. Ah ouais.
Gary est en deuil.
Là c'est vrai, alors Gary, je t'avoue vraiment. Là ce soir c'est dur de dire ça. Parce que c'est sa dernière et tout ça. Donc je m'en veux presque de rigoler de ça. Sache-le.
Je t'en veux un petit peu aussi, non?
Mais je t'autorise, Gary. Je t'autorise. Je suis sans cœur ce soir, je t'avoue.
Non, il a dit que c'était son dernier mondial, donc on le verra plus sous les couleurs du Portugal pour la Coupe du Monde. Et c'est dur de le dire, mais je pense que c'est une bonne nouvelle, malheureusement.
Exactement. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle pour le Portugal, finalement? Parce que quoi, tu vois sa prestation ce soir et même toute sa compétition, honnêtement.
On a vu dans les matchs précédents qu'il y avait une possibilité de le gérer. Donc pour moi le principal fautif c'est Roberto Martinez.
Oui. Parce que c'est complètement... De le gérer, c'est-à-dire. Parce qu'il a pas l'air d'avoir géré. Quand tu vois que le match dernier il fait rentrer Gonzalo Ramos. Ouais, mais il est sorti. Ouais, mais très tard. Trop tard.
Mais c'est de la faute de qui s'il ne sort pas avant? Il peut le sortir.
Ah oui, bien sûr, Roberto Martinez, c'est clair. Mais on ne peut pas me dire qu'il était géré. Il a quasiment joué toutes les minutes de la compétition.
Non, mais tu m'as pas écouté. J'ai dit qu'il peut être géré. J'ai pas dit qu'il l'a été. Et ils l'ont montré dans le match précédent qu'il pourrait l'être. Et ils l'ont pas fait. Et Roberto Martinez ne l'a pas fait, malheureusement pour le Portugal. Mais il y avait possibilité de le faire. Et de toute façon, toutes les critiques sont tournées vers Roberto Martinez ce soir, et à juste titre.
C'est impossible qu'il poursuive sa mission après un tel gâchis, après une telle prestation, après une telle bouillie de football présentée depuis qu'il a la tête de cette sélection, et notamment dans cette Coupe du Monde. Comment tu peux avoir autant de bons joueurs, parce que ce sont que des bons joueurs, et proposer un tel football? Il doit prendre la porte, comme malheureusement Cristiano Ronaldo, parce que le temps est venu pour lui, mais tout ça doit prendre la porte, et il faut profiter maintenant avec un vrai bon entraîneur. Il faut profiter de tous ces joueurs, de Vitinha, de João Neves, de Nuno Mendes. Bon, ok, j'ai cité les Parisiens, c'est vrai. Mais il y en a d'autres. Il y a des bons joueurs au Portugal, le réservoir. Il y a Conceição qui est rentré à la fin. Il y en a, il faut virer. C'est la fin pour Bernardo Silva aussi.
João Félix fait un super match avant de le sortir.
João Félix, si quelqu'un est capable un jour de lui visser la tête, pourquoi pas? Mais toujours est-il qu'il y a des bons joueurs au Portugal, ça c'est pas ce qui manque. Mais il va falloir un bon entraîneur maintenant et se séparer de toute une génération.
On a joué comme une petite équipe, on a abordé ce match comme une petite équipe et on sort comme une petite équipe. À la fin, quand il y a encore 0-0, ça se voit clairement qu'on fait tourner le ballon pour attendre la prolongation. Je ne sais pour quelle raison, parce qu'on a largement les moyens d'aller chatouiller cette équipe d'Espagne qui était loin d'être la grande équipe d'Espagne. C'est vrai. Donc on a pas montré grand chose et on sort par la petite porte.
On va revenir sur les conséquences de cette élimination pour le Portugal un peu plus tard, même si évidemment on parlait de Cristiano, non, Ronaldo est naturel vu l'importance qu'il a dans le monde du foot et que donc ce soir on fait le bilan qu'il ne sera jamais champion du monde. Mais globalement, est-ce que vous êtes séduit par ce match ou est-ce que vous êtes un peu déçu par...
Non, moi j'ai pas passé passé une bonne soirée. Je m'attendais à... En fait, je me dis que je me suis trompé de m'être excité et d'attendre un gros match parce que j'aurais dû me douter que le Portugal, parce que c'est souvent ce qu'ils ont fait contre l'Espagne, allait simplement attendre. Bon, malgré tout, ça aurait pu donner une opposition de style intéressante, mais on n'a pas eu de scénario fou comme on en a vu pas mal sur ces derniers matchs à la Coupe du Monde. On n'a pas vu de gestes fous, on n'a pas vu d'émotions particulières. J'ai pas vu grand-chose dans ce match, je suis profondément déçu, et ma déception est d'autant plus grande qu'il y a deux très belles équipes, beaucoup de bons joueurs, et même l'Espagne, finalement, bon, elle a gagné, c'est mérité. Même pour l'Espagne, moi, oui, c'est un favori dans la bouche de tout le monde depuis le début de la compétition. Mais je ne sais pas comment, parce que, ils ont beaucoup le ballon, mais je trouve aujourd'hui, ça ronronnait pas mal. Il n'y avait pas beaucoup d'accélération, il n'y avait pas beaucoup de prise de risque. Un peu au début, les premières 20 minutes, mais l'Espagne n'a pas fait non plus un très gros match.
Maxime, t'es d'accord?
Et Daniel, avant la 70e et la pause fraîcheur, l'Espagne, t'avais l'impression, t'avais des séquences, ils avaient pas envie de jouer, ou parfois t'avais des séquences, il y avait que Dani Olmo qui avait envie de jouer, et les autres, ils le regardaient, il était frustré, dans l'utilisation du ballon.
Si, avant au début la deuxième match, pause fraîcheur, c'est un mauvais décalage. Match dans de le la début part de des partie, il y a eu 2-3 décalages qui ont donné des situations.
Avec l'occasion de Yazabal, notamment.
Des situations de ballon chaud dans la surface, mais qu'on appelle pas occasion, parce que ça ne s'est pas conclu par des frappes. Tu sais, c'est ces ballons, quand ils font la triangulation, là, avec les hop, et puis la passe en retrait. Mais sauf qu'il n'y a personne en retrait à la réception. Tu vois, ces mouvements qui sont très beaux dans leur construction, mais qui ne se sont terminés par rien et qui n'ont pas donné d'occasion, justement.
C'était pas dans le rythme avec le ballon aujourd'hui.
L'histoire nous a montré que c'est Portugal-Espagne débouche toujours sur des matchs un peu fermés. Il n'y a qu'à regarder les derniers résultats, et notamment cette finale de National League. Moi, où je rejoins Daniel par rapport à son analyse, c'est que je m'attendais malgré tout à un match ouvert. Alors, quand je dis match ouvert, en tout cas dans le contenu, je m'attendais à avoir du beau jeu, du côté espagnol.
On n'aurait pas dû.
J'ai fait l'erreur, mais quand tu regardes un petit peu le parcours du Portugal, ok, il y a eu ce premier match, alors on peut dire que c'est le premier match du Portugal, c'est poussif contre le Congo, un but partout. Il y a ce match contre l'Ouzbékistan où tout le monde a levé les bras en disant ça y est, le Portugal est lancé, mais on s'était bien positionné en disant que l'Ouzbékistan n'avait rien à faire dans cette Coupe du Monde. Et derrière, ça a été très très poussif quand même contre la Colombie. Ils doivent ce match nul,
contre la Colombie, ils doivent perdre 100 fois,
exactement, parce qu'il y a ta Sanchez, t'as la dernière seconde là,
ils se font
marcher dessus complètement, et ne parlons même pas de la Croatie, parce que clairement Portugal-Croatie c'était très très serré. On a un droit à un pénalty de Cristiano, mais on a surtout le droit au rentrant Gonzalo Ramos qui sauve un petit peu le Portugal. Et quand tu regardes et que tu fais le bilan un petit peu de cette équipe pendant cette compétition, finalement c'était prévisible, il n'y a absolument rien. Alors il faudrait se poser la question, et moi là j'ai envie de vous la poser aujourd'hui: pourquoi Roberto Martinez a insisté avec Cristiano Ronaldo? Moi, je me pose la question. On parlait éventuellement
parce que
son avenir serait lié.
C'est un enfermement psychologique, parce que son statut dépasse la réflexion.
Parce que Gary nous l'a
expliqué tout à l'heure, et moi, ça fait des années que je dis qu'il bloque toute évolution dans le jeu de cette équipe, parce que le temps s'est emparé de lui et qu'il peut plus s'en défaire. Mais Gary nous l'a dit tout à l'heure dans l'avant-match. À partir du moment où au Portugal, personne, je dis même pas dans les journalistes, parce que dans les journalistes, je veux bien entendre que c'est du 50-50 ou je ne sais pas qui ose vraiment le dire, mais si aucun acteur du football, parce que les acteurs du football ont toujours une voix qui porte dans un pays, tu sais, à un moment quand il faut aller oser toucher à quelque chose qu'il ne faudrait pas toucher, c'est toujours les anciens qui ont un petit peu la clé et qui osent dire des trucs. Par exemple au Brésil, aucun n'a osé parler de Neymar, par exemple. Et ben si aucun ancien joueur, parce que t'en as aucun qui a le palmarès de Cristiano, n'a osé dire il faut tourner la page, personne n'ose y toucher.
Alors de le faire,
personne n'ose
y toucher. Sélectionneur. Et donc il faut prendre un sélectionneur.
Il n'y a rien du tout, il n'est même pas portugais.
Et voilà, et ben alors c'est peut-être la problématique de cette fédération.
C'est un employé, c'est un salarié de la Fédé, il vient là, il peut pas, il est jamais de la vie, il est plus important.
Tu penses que si tu as,
il est pas plus important, excusez-moi, je termine. Roberto Martinez.
Si tu penses, alors si la fédération avait choisi par exemple à José Mourinho, est-ce que José Mourinho serait positionné de cette manière-là
aujourd'hui? Peut-être que dans le... Mais c'est pas la même chose.
C'est pour ça que je t'explique que l'erreur peut-être vient de la fédération en ayant nommé déjà Roberto Martinez qui a déjà fait n'importe quoi avec cette génération dorée en Belgique et qui refait la même chose avec
Roberto
le Portugal.
Roberto Martinez, tu avec
il devait partir. Donc
moi j'ai vu des comportements.
Les uns après les autres, les gars. Vas-y, Gary.
Il devait partir normalement avant la Ligue des Nations, mais comme il la remporte et qu'il bat l'Allemagne en Allemagne et qu'il bat l'Espagne sur le fil, il gagne du sursis en fait. Mais ça fait un moment qu'on perd du temps à regarder cette équipe du Portugal avec Roberto Martinez. Et de toute façon, même si vous parliez de José Mourinho, même si c'était José Mourinho, parce que c'était fait pour lui normalement la suite. Tout était fait pour lui. C'est juste qu'il y a cette opportunité du Real Madrid qui sort de nulle part, que José Mourinho saisit tout de suite. Mais normalement, il était censé reprendre la Selecao. Et lui aurait été capable, je pense, de mieux gérer Cristiano, pas de le sortir.
Mais dis-moi, Gary, arrêtons-nous sur ce point, s'il te plaît, deux secondes. Pourquoi le Portugal, pourquoi il n'arrive pas à trouver un sélectionneur? Qu'est-ce que je veux dire par là?
Il y a Amorim, par exemple.
Parce que Fernando Santos était tombé
Il veut bien gagner sa vie.
Il était un petit peu tombé là, un peu par hasard, et bon, il y avait eu cette victoire à l'Euro inespérée, premier titre, et donc il a été, forcément, il était devenu intouchable, parce que quand tu remportes un titre comme ça dans un pays qui attendait ça depuis des années. Mais bon, au fond, c'était le daron, c'était le tonton, tout ce que tu veux, mais on n'est pas en train, quand on sait l'école de pensée footballistique qu'il y a au Portugal, les entraîneurs qu'il y a eu sur ces dernières années, le rôle central que le Portugal a joué même dans l'évolution du foot des 20 dernières années. Santos, je l'aime bien, c'est gentil, ça plaît et tout, mais bon, il y a quand même beaucoup mieux. Dans la foulée, et Roberto Martinez, et même si on remonte avant, quand ils étaient allés prendre le Brésilien, là, Scolari. Mais il n'y a pas d'entraîneur portugais à mettre à la tête de cette sélection, hein, bonjour, une bonne fois pour toutes, à un moment.
Il y en a plein. Le problème, c'est qu'ils étaient un peu trop hype pour aller en sélection. C'était tous des coachs qui avaient des positions plus importantes, qui allaient en première ligue, qui avaient des possibilités d'aller à mieux, tout simplement, que ce soit en termes de salaire, en termes d'opportunités. Après, là, même là, la suite, c'est pas non plus reluisant. Ce qu'on annonce, c'est ce qu'on entend parler, c'est Jorge Jesus. Donc c'est pas non plus, même si c'est mieux que Roberto Martinez.
En termes de jeu, c'est quand même mieux, Jorge Jesus.
Oui, c'est mieux. Ce qu'il a fait à Flamengo, ce qu'il a fait au Sporting à Benfica, c'est quand même plus sympa. Mais bon, il était à Al Nasser dernièrement, il était à Lille à l'avant. Il est quand même coupé du football de très haut niveau depuis un petit moment. Donc j'ai envie de voir ce que ça donnerait.
Pause et ensuite, on va écouter Roberto Martinez. On parlera de l'Espagne, bien sûr, longuement. On a également Antonio, qui est supporter portugais, qui nous attend. Avant minuit, on démarrera le débat sur l'interférence politique dans cette Coupe du Monde. Trump ne savait pas ce que c'est qu'un carton rouge. Ça ne l'a pas empêché d'appeler Infantino pour faire enlever celui de Balogun. On écoutera Donald Trump.
Il a spoke to Gianni.
Ah, yes.
I spoke to Johnny.
Allez.
Ton séjour aux États-Unis, t'as fait du bien.
C'est un t-shirt. Hein. Je suis sûr que si tu fais des t-shirts, tu fais un carton avec ça.
Ah, quoi? I spoke to Johnny?
Ah, bah, I spoke to Johnny, c'est un t-shirt, quoi. C'est extraordinaire.
Ouais.
Mais cette phrase-là, mais ça ridiculise, ça transforme Infantino, qui était déjà un clown. Mais là, il a tout. Il a le chapiteau, il a les orchestres.
Et il est passé de clown à bouffon, peut-être.
Mais exactement. Mais c'est humiliant, la phrase I spoke to Johnny, mais c'est mort. Il est fini, il est cramé, quoi.